Bonjour et bienvenue dans Sourire à soi, le podcast où l'on parle de développement intérieur, de sagesse ancestrale, de yoga, mais aussi de design humain ou de spiritualité. J'essaye de le faire toujours avec simplicité, profondeur et une touche d'humanité. Je suis Céline, professeure de yoga, accompagnante en transformation intérieure, passionnée par l'être humain et les mystères de la vie. Ici, j'aime te partager des clés, des contes, des réflexions que j'ai eues pour t'aider à te reconnecter à ce que tu es profondément et surtout à essayer d'avancer avec confiance, même quand la vie devient floue. Donc, bienvenue dans cet épisode. J'ai consacré cet épisode à la foi en la vie et surtout au détachement face à l'inconnu. Ça peut paraître un peu mystérieux comme ça, mais en fait, je trouve ça très intéressant de venir aborder ces moments de la vie où on ne sait plus, où on est perdu, où on se sent dans le flou, on hésite, voire c'est carrément le chaos, le bordel total dans notre vie. Et en fait, on cherche le sens. C'est vraiment, ça me rappelle une phrase de ma formatrice de yoga, c'était « Pourquoi je vois ce que je vois ?» Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça n'avance pas? Et en fait, je pense qu'on a tous traversé déjà des périodes où tout semblait complètement s'écrouler comme un château de cartes. On a enlevé une carte et d'un coup, tout tombe. Et au final, peut-être quelques temps plus tard, on s'est rendu compte avec du recul que ça avait été un véritable tournant dans notre vie et que ça avait été plutôt positif. Il y a cette citation qui dit que tout grand changement sera précédé d'une grande période de turbulence. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut peut-être garder foi en la vie, comment on peut lâcher prise dans ces périodes-là, se détacher et peut-être se raccrocher à cette foi un peu folle qu'il faut parfois cultiver quand la vie, bah, elle répond juste plus à nos plans, à nos objectifs et qu'elle... Elle nous détourne complètement de notre voie. On ne comprend pas ce qui se passe, en fait. On ne comprend pas. Et je trouvais ça intéressant pour introduire cet épisode de vous parler d'un petit conte que j'aime beaucoup. Vous verrez au fur et à mesure de ce podcast, j'aime beaucoup les petits contes initiatiques. Et donc, du coup, ça, c'est un conte qui ne date pas d'hier. Hein. On dit qu'il vient d'un philosophe taoïste dans la Chine antique, à peu près au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je ne vous dirai même pas le nom de l'homme, parce que c'est trop compliqué pour moi et que je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ça illustre vraiment l'idée centrale du non-agir, du laisser-faire, du non-jugement des événements. Et c'est une des valeurs fondamentales du taoïsme. Donc voilà ce petit conte. Il nous parle d'un vieux fermier très très pauvre qui habite dans un petit village chinois. Et sa seule richesse, c'est un superbe cheval blanc. Et tout le monde a tendance un peu à le jalouser pour ce beau cheval parce que vraiment, il fait des envieux. Et un jour, ce fermier se réveille et le cheval s'est échappé. Il s'est enfui dans les collines. Et du coup, tous les voisins, tous les villageois... Ils viennent et ils le plaignent en fait, ils disent « Mais quelle malchance, tu as perdu ton unique cheval, puis il était si beau, si grand, si fort, c'était ta seule richesse. » Et le fermier, il répondit simplement « Oui, peut-être. » Et quelques jours plus tard, à la grande surprise de tout le monde, le cheval revient. Et en plus, il revient accompagné d'un troupeau de chevaux sauvages. Donc là, les voisins, très surpris, reviennent, ravis pour lui, et ils s'exclament « Mais quelle chance, t'as maintenant plusieurs chevaux !» Et le fermier répond encore « Oui, peut-être. » Et son fils, avec le temps, essaye évidemment de dompter l'un de ses chevaux sauvages. Il a des difficultés, il y en a qui se laissent faire, et celui-là est particulièrement récalcitrant, et un jour, bah, tout simplement, il tombe, et il se casse une jambe. Alors là, les voisins, les villageois, à nouveau choqués, viennent le voir et lui disent « Oh là là, mais c'est une véritable tragédie, ton fils est blessé, il ne peut plus t'aider, il ne peut plus rien faire, c'est vraiment terrible ce qui t'arrive. » Et le fermier répond encore « Oui, peut-être. » Peu après, le temps passe, son fils est toujours avec sa jambe cassée, alité dans son lit, Et il y a des soldats du royaume qui passent dans le village pour enrôler de force tous les jeunes hommes dans l'armée parce qu'il y a une guerre qui se prépare. Mais forcément, ils voient le fils du fermier qui est blessé et donc bah, ils le laissent tranquille. Et les voisins viennent alors le voir et lui disent: Quelle bénédiction! Ton fils a été épargné de la guerre. Et une dernière fois, le fermier répond encore: Peut-être. Donc, tout ça pour vous dire que parfois, des malchances peuvent cacher une véritable bénédiction, et ce qui paraît positif peut entraîner des conséquences complètement inattendues. La vie suit un rythme en fait qui dépasse le jugement immédiat du mental. Donc c'est un magnifique écho aussi à un texte que je vais vous introduire, que ceux qui pratiquent le yoga connaissent déjà certainement, qui est la Bhagavad Gita. Et tout ça fait aussi lien avec, si vous avez écouté mon premier épisode, avec le Svadharma, avec notre mission de vie, avec ce qu'on est venu incarner, revient aussi se lier à nouveau au design humain et au final à la confiance que l'on doit faire dans le processus de la vie. Et donc, la Bhagavad Gita, les textes indiens et dans notre pratique, je le répète souvent dans mes cours, qu'il ne faut pas s'attacher aux résultats de notre pratique parce que un jour, avec le temps ou par moment, si on est blessé ou autre, eh ben en fait, peut-être que le résultat qu'on obtient un jour, on l'obtient peut-être pas le lendemain matin. Et c'est difficile comme ça de se laisser aller dans le flot de la vie. Et la Bhagavad Gita, qui est donc un texte qui date pas d'hier, hein, c'est vraiment un très très vieux texte qui est composé d'environ 700 vers et il vient d'un beaucoup plus gros livre qui s'appelle le Mahabharata. Donc ça, c'est une immense épopée de plus de 10 000, 100 000, pardon, même pas 10 000, 100 000 vers qui raconte une guerre en fait entre deux familles qui représente, on va dire, le dharma, comme le monde doit évoluer, vers où il doit aller, et la dharma qui est ce qui va plutôt freiner cette avancée dans le monde. Qui est un petit peu plus négatif, peut-être plus tourné vers l'ego ou tout ça. Et donc, en fait, ce texte de la Bhagavad Gita, c'est un petit moment dans le Mahabharata, et on appelle ça le chant du bienheureux. Ça date d'environ entre 5 et le 2e siècle avant Jésus-Christ, hein. Donc, on parle de textes qui sont très très anciens, et c'est ça qui est beau, je trouve, quand on s'intéresse à ces philosophies ancestrales, c'est qu'on se rend compte que ces textes, bien qu'anciens, mais sont complètement encore d'actualité. Et c'est des choses avec lesquelles les Indiens grandissent, et c'est un des piliers de la philosophie védique, de l'hindouisme, donc c'est vraiment une œuvre universelle de sagesse intérieure. Donc la Bhagavad Gita, je remets le contexte. Donc on se retrouve sur un champ de bataille, sur un champ de bataille, et nous avons donc le personnage principal de la Bhagavad Gita qui s'appelle donc Arjuna, qui est complètement paralysé sur ce champ de bataille, et il est là assis sur un char, son cocher est Krishna. Et Krishna, qui est un avatar, si on va plus loin, parce que en Inde, les trois dieux principaux, Brahma, Vishnu et Shiva, reviennent pour nous donner des leçons sous d'autres formes, sous d'autres noms, quand on en a besoin. Donc là, Arjuna va comprendre au fur et à mesure de cette discussion sur le champ de bataille que Krishna est bien plus que juste un homme, parce qu'il détient de grandes leçons de sagesse. Et donc, Krishna est son cocher et Arjuna, il est là au milieu du champ de bataille, il est plein de doutes, il est plein de peurs, il veut reculer parce qu'il doit aller se battre contre sa propre famille, contre des cousins qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que lui, qui veulent prendre le pouvoir de force et ne pas forcément mener le monde, le royaume vers le sens le meilleur pour l'évolution du monde. Et donc du coup, il est là, il pleure hein, vraiment sur le champ de bataille. Et Krishna lui rappelle que c'est pas à lui de juger, c'est à toi d'avancer selon ta nature. Et Arjuna est élevé depuis tout petit pour être un guerrier. Et c'est un très très bon guerrier. Donc il lui explique qu'il ne peut pas comme ça échapper au rôle de sa vie, à sa mission. Il explique aussi et il introduit cette notion de réincarnation qu'en fait tous ces hommes ne portent que des vêtements de passage, que c'est aussi leur rôle pour l'évolution de la planète que de peut-être mourir sur ce champ de bataille. Et que il est important, l'une des citations clés de ce texte, c'est Mieux vaut accomplir son propre devoir, même imparfaitement, que d'accomplir parfaitement celui d'un autre. Donc, il lui dit qu'il faut absolument, hein, et c'est l'une des définitions simples au final du Svadharma, de suivre son propre chemin, celui qui nous appartient, même s'il fait peur, même s'il ressemble à celui de personne d'autre. C'est comme ça, il faut y aller. Et donc, en fait, il va inciter vraiment Arjuna à se lancer dans cette bataille parce que elle est un moment clé de sa vie et que oui, bien sûr, il risque de perdre du monde, etc. Mais ça fait partie de la vie que de se détacher du résultat de ses actions. Et c'est ça aussi qu'on apprend en yoga, c'est fais les postures, répète, ressens. Et quelque part, ne t'attache pas à vouloir absolument, comme c'est la mode, peut-être faire le super handstand, les super pique poses compliquées, les inversions. Alors évidemment, peut-être tu y arrives et c'est génial et c'est un processus long et lent chez toi et ça te donne confiance en toi et ça débloque des choses énergétiquement dans ton corps. Mais voilà, ne t'attache pas à ces résultats parce qu'ils risquent de partir. Donc, tu es juste là pour suivre ta voie, suivre ton chemin et accepter les épreuves comme des moments d'évolution dans ta vie. Donc il faut continuer à garder cette espèce de foi. Alors je sais pas, hein, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Souvent à la fin de mes cours, je dis aux élèves, peut-être juste ayez foi en vous, peut-être ayez foi en la nature, peut-être ayez foi en quelque chose de plus grand, peut-être en un dieu particulier, peut-être j'ai foi juste dans le soleil, dans l'univers, dans les étoiles. Tout est OK, mais juste trouver quelque chose qui drive votre foi pour traverser ces moments-là, ne pas se sentir seul et faire confiance au processus de la vie pour se dire que tout est parfait. Tout est parfait même dans les moments les pires. Et je peux vous assurer que j'ai vécu des moments dans ma vie, la première fois où j'ai été sous antidépresseur, j'avais 21 ans, je suis allée voir toute seule un psychiatre parce que je sentais que j'étais pas bien. Et je me suis dit, ça peut pas être ça la vie, c'est pas possible, je peux pas à 21 ans être autant au fond du trou, plus réussir à dormir, il faut qu'on m'aide. Et c'est ça quelque part déjà avoir foi en la vie, de dire, je vais pas me laisser comme ça couler, il faut que je réagisse, ça va pas, je vais me faire aider. Et il y a aussi toute cette notion hein, de lâcher prise dans ces moments-là, de chercher du soutien, si, de se raccrocher à sa foi, peut-être de lire des textes inspirants, et de pas oublier que ça va passer. Que tous les jours on va faire un pas et tous les jours ça va être une nouvelle journée et on va avancer, se détacher de ces moments difficiles, de ces épreuves et elles prendront le temps au fur et à mesure de cicatriser. Si je relis ça, parce que c'est important, vous voyez tous les liens que je crée entre le yoga, ces philosophies ancestrales, ces petits contes. Si je reviens pareil tout doucement avec le design humain, je retrouve cette même idée que chaque être humain est complètement unique dans son énergétique, dans son chemin de vie, qu'on est tous câblés différemment, et du coup, au final, tout se fait pour vivre selon son propre rythme et sa propre lumière. Et même, je vais plus loin dans l'épisode sur le design humain, je vous en ai parlé, mais on a chacun notre propre autorité intérieure, qui fait que notre corps sait, que notre énergie, elle sait. Mais le mental, lui, il panique parce qu'il veut avoir des garanties, il veut que ce soit sûr à 100%, il veut des solutions rapidement. Et du coup, c'est pas facile de faire le tri entre tout ça. Donc, c'est important de venir peut-être faire des analyses pour se connaître mieux et avoir de plus en plus d'outils pour avancer dans ces périodes un petit peu plus difficiles. Donc, pour conclure un peu, aller vers la fin de cet épisode, je vous inviterai à vous demander si, quand dans ces périodes-là, c'est difficile, est-ce que tu juges que c'est une épreuve? Et si ce n'était pas un blocage, mais plutôt un redirectionnement divin, pour que tu ailles plus sur ton chemin. Peut-être tu étais en train de te tromper de chemin. Et pareil, un peu comme si la vie te disait doucement à l'oreille, c'est pas par ici, c'est pas comme ça. Mais ne t'arrête pas, continue, tu vas trouver. Donc, ne te sens pas perdu. Tu es peut-être simplement en train de changer de direction, de voie, et peut-être tu étais sûr que c'était par là, et au final, la vie, elle t'a dit non une fois, par des petits signaux, une deuxième fois, une troisième fois, et vu que tu n'as pas compris, ben là, elle te met une grande épreuve. Donc, souviens-toi du mot du fermier, peut-être ou peut-être pas. Souviens-toi aussi que ta vérité, elle n'a besoin d'être validée par personne. J'espère que ce petit épisode te fera comprendre que tout le monde vit des épreuves et que on peut réagir, je crois, aux épreuves de la vie de deux façons. Soit justement on fait le point, alors pas tout de suite, mais on apprend à grandir avec cette épreuve, à la regarder sous différents angles, avec recul, un peu comme si on regardait ce qui se passe à l'arrière d'une caméra, pour se protéger peut-être aussi dans le moment de l'épreuve. Mais voilà, on peut décider soit d'en grandir, soit d'en devenir la victime. Et on a tous dans notre entourage des gens qui se plaignent, qui disent toujours c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ci, de la société, de l'autre, de mes parents, de mon job, de la politique, de mon pays. On peut toujours trouver 10 milliards d'excuses pour ne pas se remettre soi en question et changer des choses. N'oubliez jamais qu'au final, l'autre ne changera jamais. Il y a seulement vous qui pouvez changer votre regard sur l'autre. Sinon, je peux vous assurer que vous pouvez souffrir très très longtemps dans votre vie, malheureusement. Si cet épisode t'a parlé, t'a touché ou t'a simplement donné envie d'aller un peu plus loin dans la connaissance de toi, sache que j'accompagne les personnes en quête de sens à travers des analyses personnalisées en design humain ou même à travers les clés génétiques qui sont un outil un petit peu plus spirituel, des cours de yoga, mais aussi des retraites et des espaces de transformation intérieure. Tu peux retrouver toutes mes offres ou me contacter directement via mon compte Instagram, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Et surtout, surtout, si le cœur t'en dit, tu peux me soutenir, soutenir ce podcast en le partageant, en laissant 5 étoiles, ou simplement en en parlant autour de toi, ce serait vraiment très sympa. Merci d'être là et à très vite pour continuer ensemble ce chemin d'ouverture à soi.